Décryptage, Marie Cazadebé.
Contrairement au sommet de Singapour, celui d'Hanoï ne marquera peut-être pas l'histoire. Les deux dirigeants, américains et nord-coréens, étaient arrivés gonflés d'optimisme hier dans la capitale vietnamienne, prêts à concrétiser les engagements pris au mois de juin. Ils sont finalement repartis sans avoir signé de déclaration conjointe. Lors de la conférence de presse de clôture, Donald Trump a tenté de relativiser.
Je ne suis pas pressé. J'apprécie que la Corée du Nord ait suspendu ses essais balistiques et nucléaires. Nous avons une très bonne discussion à ce sujet et encore une fois, la vitesse n'est pas si importante que ça pour moi. On a développé quelque chose de très spécial avec du respect.
Un sommet pour conforter leurs relations. La région en attendait davantage, mais chacun des dirigeants semble camper sur leur position. Pourquoi le sommet d'Hanoï a-t-il accouché d'une souris? Compromet-il les négociations entre Washington et Pyongyang? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Marianne Perrondoise.
Bonsoir.
Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes chercheuse sur l'Asie à l'IRSEM, c'est l'Institut français de recherche stratégique de l'école militaire et chercheuse également au CERI Sciences Po. Nous sommes en ligne avec Barthélémy Courmont. Bonsoir.
Bonsoir.
Professeur à l'Université catholique de Lille dans le nord du pays, directeur de recherche à l'IRIS. Alors vous venez d'entendre le président américain Donald Trump semble minimiser l'importance des conclusions de ce sommet, c'est-à-dire l'absence d'avancée. C'est pas grave, on a le temps. Marianne Perrondoise, est-ce que pour vous, on peut parler clairement d'échec après ce sommet d'Hanoï?
Je n'irai pas jusque-là. Les portes sont restées ouvertes. C'est vrai que le discours de Donald Trump avait l'air de vouloir sauver la face, tant pour lui que sans doute pour Kim Jong-un, mais finalement, si l'on se souvient de l'après-sommet de Singapour, il avait quand même été beaucoup critiqué pour avoir signé un engagement qualifié de vague, même si c'était quand même un premier sommet, une première poignée de main, et que ça avait une résonance assez extraordinaire. Sur la base d'attitude assez maximaliste, puisqu'il y a quand même l'équation sanction-dénucléarisation qui n'a pas fonctionné et dans quelle proportion. Il semblerait que finalement la partie américaine se soit montrée très rigide sur la dénucléarisation en exigeant beaucoup et que la Corée du Nord, sur la partie des sanctions, n'était pas prête à un allègement partiel mais aurait demandé beaucoup.
Et dans ces conditions, on va revenir évidemment sur les termes de négociation pour qu'on comprenne bien ce qui se discute entre les États-Unis et la Corée du Nord. Barthélémy Courmont, les deux dirigeants étaient censés se séparer après la signature d'une déclaration commune, donc ça n'a pas été le cas. Mais est-ce qu'on sait ce que cette déclaration était censée stipuler ?
Absolument pas. On était dans le flou total, comme on l'était d'ailleurs à Singapour, et il convient de rappeler, je souscris tout à fait aux propos de Marianne Perrondoise, il convient de rappeler que la déclaration de Singapour était un petit peu vide de sens, que c'était un geste historique, mais que dans le contenu, il n'y avait pas grand-chose, et puis par conséquent, on ne peut pas véritablement parler d'échec de cette rencontre d'Hanoï. C'est un épisode supplémentaire. Je suis persuadé qu'il y aura d'autres rencontres entre hauts dirigeants américains et nord-coréens dans les prochains mois. Il y aura peut-être une autre rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un, on peut l'appeler de notre vœu. Ce qui est intéressant, c'est d'opposer la préparation qui est celle de la Corée du Nord à ces deux sommets, celui de Singapour et celui de Hanoï, à une forme de naïveté du côté américain qui s'exprime par la voix de Donald Trump. On l'a vu notamment dans ses multiples tweets dans lesquels il qualifie Kim Jong-un d'ami avant de le retrouver à Hanoï, ce qui est quand même assez particulier. D'une certaine manière, Trump est une espèce de personnage à Alice au Pays des Merveilles qui plonge dans un rêve sans avoir la moindre connaissance de cet environnement qui l'entoure. Il est un petit peu dans le flou. Il nous embarque d'une certaine manière dans ce rêve puisqu'on se prend à rêver d'une réconciliation rapide, d'une dénucléarisation, bref, d'un règlement définitif d'un problème qui dure depuis maintenant des décennies. Et puis, on revient à la triste réalité qui est effectivement celle d'un dossier très difficile.
Alors,
sur lequel...
Oui.
On
oui.
aura une grande difficulté à s'accorder.
Alors c'est ça, Marianne Perrondoise, finalement, on en attend énormément à chaque fois qu'ils se rencontrent, aussi parce que, comme le disait Barthélémy Courmont, ils y mettent les formes autour, mais finalement, le problème est bien plus compliqué que ça. Est-ce qu'on peut revenir juste sur les bases de la négociation? Vous parliez de sanctions, de dénucléarisation, qu'est-ce qui se joue? Et finalement, qu'est-ce qui a été mis sur le papier la dernière fois, donc à Singapour, et qui était censé peut-être se concrétiser
Alors,
dans les mois prochains?
c'est vrai que à observer les allées et venues assez nombreuses de Mike Pompeo, donc le secrétaire d'État américain, que ce soit à Pyongyang, Séoul ou Tokyo, on pensait que l'on avançait vers quelque chose qui toucherait au traité de paix, puisqu'il avait été quand même question d'instaurer un régime de paix sur la péninsule dans ce communiqué, cette déclaration de Singapour. Et de la même façon, le mot dénucléarisation de la péninsule coréenne avait quand même été prononcé. Donc c'était les deux directions sur lesquelles on pouvait penser que les équipes de négociation travaillaient. Et donc peut-être qu'une déclaration, ça n'est pas très engageant, une déclaration par rapport à un traité de paix qui est quand même un cadre très formel, très lourd, qui aurait inclus des discussions assez longues avec la Chine et avec la Corée du Sud. On s'attendait à minima, c'est vrai, à une déclaration sur la paix qui mette au moins symboliquement fin au régime d'armistice. Ça, c'était une chose. Et de la même façon, il y avait ce gel nord-coréen qui avait été mis en place depuis et observé et respecté par Kim Jong-un depuis plus d'un an. Et on pensait peut-être aller plus loin avec le démantèlement, enfin un effort de la Corée du Nord pour démanteler certains sites nucléaires. Et donc, on en était là de nos supputations, avec des gestes très, très forts quand même, mais aussi très symboliques, comme l'ouverture d'un bureau de liaison à Pyongyang. Ça a quand même été évoqué assez explicitement, toujours par Pompeo. Et effectivement, on se serait, je dirais, on aurait continué cette normalisation politique et diplomatique en gagnant du temps, en créant le climat de confiance, qui était quand même l'approche qu'avait préconisé Donald Trump. Et donc, on pensait s'instaurer ou s'installer dans un donnant-donnant avec des petits pas de chaque côté.
Mais ce qui est important là pour la Corée du Nord, c'est qu'elle, elle essaie de négocier alors en échange d'une dénucléarisation, mais on comprend qu'elle ne peut pas se faire du jour au lendemain, c'est la levée des sanctions américaines. C'est un poids énorme pour l'économie nord-coréenne, ces sanctions.
Je pense que c'était la priorité de Kim Jong-un et de son entourage, et qu'il y avait quand même une certaine forme d'optimisme ou de naïveté, le mot a été prononcé pour Donald Trump, quand même de la part de la Corée du Nord, d'imaginer un effort trop conséquent de ce côté-là. Les sanctions, elles ont fait l'objet de décisions et de votes au sein du Conseil de sécurité. Il y a les membres permanents, les membres non permanents, donc lever des sanctions impliquait quand même des discussions qui n'engageaient pas uniquement Donald Trump. Et s'il s'était agi uniquement de sanctions bilatérales prises par le Trésor américain sur certains organismes financiers donc nord-coréens, il aurait fallu en parler devant le Congrès. Donc si vous voulez, la voie n'était pas très 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 aisée dans ce domaine pour Donald Trump, et il ne pouvait pas s'engager trop. En revanche, ce que je pouvais supposer avec d'autres observateurs, c'était une autorisation à la Corée du Sud de reprendre partiellement un certain nombre d'activités économiques qui avaient été mises en place donc à partir de 2000 dans le cadre de la politique d'ouverture des précédentes administrations sud-coréennes vis-à-vis du Nord. Donc ça n'était pas créer un précédent, on reprenait un certain nombre d'initiatives qui avaient déjà été construites et qui avaient été gelées effectivement à cause de la poursuite des essais nord-coréens. Et bien là, on n'aura pas réussi à progresser, à la grande déception de la Corée du Sud, comme
alors,
vous pouvez l'imaginer.
À propos des sanctions, je vous propose d'écouter ce que disait Mike Pompeo en août dernier à Singapour devant les représentants de l'ASEAN, c'est l'association des nations de l'Asie du Sud-Est.
Le président Kim a pris un engagement, ici même à Singapour le 12 juin, dénucléariser son pays. Nous y travaillons. Je souligne l'importance de maintenir la pression économique et diplomatique sur la Corée du Nord afin de parvenir à la dénucléarisation complète et vérifiable, comme le président Kim s'y est engagé. Il ne s'agit pas seulement de garantir la sécurité des États-Unis. Les pays membres de l'ASEAN savent à quel point c'est important pour leur propre sécurité.
Barthélémy Cormon, les deux camps ont l'air très intransigeants sur leurs conditions. La levée des sanctions d'un côté, la dénucléarisation de l'autre. Mais pour que cela marche, il faudrait une confiance totale entre les deux acteurs et ça n'a pas l'air d'être le cas.
Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce degré d'intransigeance. Côté nord-coréen, il est très clair. Il faut lever les sanctions et c'est sans doute très naïf, je suis parfaitement d'accord là-dessus de la part de Pyongyang, mais c'est en tout cas un objectif qui est très clairement fixé par Pyongyang. En revanche, côté américain, on a vu une modification du discours de manière très sensible au cours de la dernière année, avec au départ le président Trump qui d'abord se refuse à toute forme de dialogue, hein, rappelons tout de même le contexte qui précède cette diplomatie express, comme on l'a qualifiée, qui se met en place à partir de janvier 2018. Et puis, à partir du moment où on engage cette discussion, on fait de la dénucléarisation le préalable à toute ouverture, à tout dialogue avec la Corée du Nord. Et puis, ces derniers jours, et on l'a vu encore dans la déclaration qui a été faite tout à l'heure à Hanoï, le président américain qui se dit que finalement les choses vont prendre du temps, mais c'est pas grave, on a fait des avancées considérables, et donc les ambitions, les attentes américaines sont clairement revues à la baisse. Mmh. Il y a un changement quand même assez profond de ce point de vue qui, je pense, mérite d'être noté. Maintenant, effectivement, est-ce que cela doit nous conduire à une forme de pessimisme quant à l'incapacité des deux acteurs à se mettre d'accord? Eh bien, là aussi, il faut rester prudent. On a un petit peu oublié, peut-être, avec Singapour et Hanoï maintenant, que le pays qui est véritablement au centre de cette initiative, de ce rapprochement avec la Corée du Nord depuis maintenant un peu plus d'un an, c'est la Corée du Sud. Et Marianne Perrondoise insistait sur la déception légitime qui est celle de Séoul, sans doute, aujourd'hui. Il faut replacer la Corée du Sud au centre de cette discussion. Il faut que la Corée du Sud reprenne l'initiative. D'une certaine manière, on a vu les limites du dialogue Corée du Nord, États-Unis, avec cette rencontre. En revanche, on a vu à quel point M. Moon Jae-in et Kim Jong-un étaient capables d'avancer sur une multitude de dossiers, et notamment la pacification.
Alors justement, Marianne Perrondoise, la technique coréenne, sud-coréenne, n'est pas du tout la technique américaine. Barthélémy Courmont le soulignait, Washington fait de la dénucléarisation un préalable. Comment décririez-vous la tactique sud-coréenne pour tenter d'assouplir le régime nord-coréen? C'est par petits pas plutôt?
Par petits pas, oui, effectivement, pour recréer de la confiance et puis repartir sur de bonnes bases, sachant qu'il y a déjà, je dirais, un historique des relations intercoréennes. Donc, on reprend un certain nombre d'activités comme la réunion des familles séparées, certaines initiatives de caractère humanitaire, mais aussi, on crée la confiance en mettant en place des mesures, en fait, de désarmement conventionnel, parce que c'est vrai que le président Moon Jae-in, le président sud-coréen, avait pu aller quand même assez loin en instaurant le déminage de, vous savez, la zone démilitarisée, en mettant en place un bureau de liaison entre Pyongyang et Séoul, voilà, pour recréer des liens, avoir des contacts directs, avoir une communication facilitée. Et puis c'est vrai aussi qu'il y avait un dialogue militaire qui avait repris, donc on sentait bien une volonté d'apaisement de part et d'autre, et la mise en place de mesures de confiance. Et donc ces initiatives sud-coréennes, à chaque fois, évidemment, le président Moon était allé les expliquer au grand allié américain, puisque c'est vrai que le président Moon a dû quand même convaincre Trump, et l'a fait avec vraiment beaucoup d'habileté, puisqu'au fond, il a eu un rôle de médiateur jusqu'à présent, et c'est quand même lui qui, vous vous souvenez, en recevant une délégation nord-coréenne pendant les Jeux Olympiques, c'est lui qui a entamé ce contact et qui a permis d'arriver quand même au sommet de Singapour.
Mais est-ce que pour Donald Trump, ça va suffisamment loin? Est-ce que c'est assez fort, même pour être populaire auprès de ses prochains électeurs, en tout cas des Américains? Est-ce que finalement, la façon de faire de la Corée du Sud va suffisamment vite pour Washington?
C'est-à-dire que la Corée du Sud, à un certain point, sera arrêtée parce qu'elle ne pourra pas aller au-delà d'une forme de coopération qui ne franchira pas un cap. Or, comme Barthélémy Courmont l'a rappelé, la levée des sanctions, elle est vraiment prioritaire pour le régime nord-coréen, qui doit penser à sa réforme économique, parce que c'est quand même la priorité du régime. Et il fallait pouvoir avoir accès à des investissements internationaux. Et donc, c'est vrai, passer par un certain nombre d'autorisations. Et là, on ne sait pas ce que va faire finalement Kim Jong-un. Va-t-il se retourner vers la Chine, qui reste le partenaire, le soutien des mauvais jours? On connaît les réticences quand même nord-coréennes à trop se mettre dans l'orbite chinoise et à trop dépendante de Pékin. Mais si effectivement il ne peut pas aller plus loin avec la Corée du Sud à cause de ces sanctions, il aura la tentation de repartir vers la Chine, qui n'aura pas peur, elle, de contourner les sanctions, on le sait.
Quelques jours avant le sommet d'Hanoï, Tae Yong-bo avait donné une conférence de presse à Séoul pour lancer l'alerte. L'ancien numéro 2 de l'ambassade nord-coréenne à Londres a fui le régime pour rejoindre le Sud en 2016. Écoutez-le.
La Corée du Nord ne renoncera jamais à ses armes nucléaires tant que Kim Jong-un sera au pouvoir, même si on lui offre des milliards de dollars. Ce que Kim Jong-un attend du sommet de Hanoï, c'est le début d'un allègement des sanctions. Il pourrait accepter en échange de renoncer à au moins quelques installations nucléaires anciennes. La Corée du Nord avait déjà accepté d'y renoncer lors des pourparlers à 6 en 2005. C'est comme si elle revendait une très vieille voiture, bonne à jeter, et qui a tout juste été repeinte.
Cet ancien diplomate nord-coréen soulignait aussi la faiblesse des armes conventionnelles de la Corée du Nord, Barthélémy Courmont. Ce qui se joue vraiment pour Pyongyang, c'est la garantie de sa sécurité. Et elle ne réside vraiment qu'en la possession des armes nucléaires.
Bien sûr, c'est tout l'objet de la stratégie nucléaire nord-coréenne depuis maintenant une vingtaine d'années, depuis que ce programme est entré dans sa phase, je dirais, terminale, et puis notamment ce premier essai en octobre 2006. Donc on a développé des capacités nucléaires qui assurent la survie du régime. En tout cas, c'est de cette manière que Pyongyang estime indispensable le maintien de cette force de frappe nucléaire. Donc dans ces conditions, difficile effectivement d'imaginer que, en échange de quelques accords, de quelques promesses qui en plus pourraient ne pas être tenues au final, Pyongyang accepte de mettre un terme à cette assurance-vie. Par ailleurs, je rappelle qu'il y a des États qui ont renoncé à des programmes nucléaires, on a de multiples exemples. En revanche, avoir un pays qui désinventerait l'arme nucléaire, après avoir procédé à des essais, après avoir constitué un arsenal, ce serait un précédent. Je ne dis pas que c'est impossible, mais encore une fois, cela évidemment suppose un rapport de confiance. On revient à ce terme qui est clé ici dans cette relation. Est-ce que la confiance est suffisamment grande entre Washington et Pyongyang? Ne soyons pas naïfs, non, elle ne l'est pas encore. Et il faudra attendre effectivement une multitude de petits gestes, parfois très symboliques, parfois plus importants, pour que progressivement, espérons-le, cette confiance se mette en place et puisse conduire à une dénucléarisation. Mais nous n'en sommes clairement pas encore là. Donc, pour récapituler, on peut effectivement considérer que ce sommet n'est pas un échec, puisqu'il nous permet de rester sur la même ligne, sur ce dialogue. Encore une fois, réjouissons-nous d'avoir un président américain.
Pas de retour en arrière, surtout.
Pas de retour en arrière. Et puis, on a ces deux dirigeants qui discutent ce qu'ils ont été incapables de faire pendant des décennies. Mais, quant à des avancées concrètes, il ne fallait pas se faire d'illusions. Il faudra effectivement encore beaucoup de patience.
Pour conclure, Marianne Perrondoise, vous partagez l'optimisme de Barthélémy Courmont, finalement, au vu de ce qui s'est passé à Hanoï? Les deux hommes se retrouveront, les discussions vont avancer.
Alors je pense que leurs diplomates vont se retrouver. Je pense aussi effectivement que c'est important de considérer qu'il y a eu gel des tirs nucléaires et balistiques de la Corée du Nord. C'est quand même une mesure de détente assez bienvenue. Et si effectivement le régime reste sur cette ligne, cela montre que lui aussi estime qu'il y a du temps à donner au temps et qu'il est possible de rester sur une ligne de négociation. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que le régime se sente trop marginalisé, se sente oublié ou mis de côté, et que pour attirer de nouveau l'attention internationale, il procède à un tir de missile pour rappeler qu'il est là, qu'il a, comme Barthélémy Courmont le souligne, l'arme nucléaire, et qu'il faut le prendre en considération. Donc il faut éviter de retourner dans ce genre de logique confrontationnelle.
Merci beaucoup, Marianne Perrondoise, chercheuse sur l'Asie à l'IRSEM et aux séries Sciences Po. Merci Barthélémy Courmont d'avoir été en ligne avec nous, professeur à l'Université catholique de Lille et directeur de recherche à l'IRIS. Et merci à toute l'équipe de Décryptage. Il y avait ce soir Louis Kaledek, Charles Mamère, Emmanuel Sevin et Luna Timbal, restez avec nous dans 30 secondes, un point sur l'actualité africaine.